Mais on va commenter ça.
Les réalités divinement... Alors bon, c'est pas en français normalement, hein, mais bon, on va le dire en... Les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y ont été consignées sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Notre Sainte Mère l'Église, de par la foi apostolique, en vrai, c'est quand même très... Enfin, vous voyez que je commence à commenter, hein, mais c'est une formule... Oui, c'est... Tient pour sacré et canonique tous les livres tant de l'Ancien que du Nouveau Testament avec toutes leurs parties, puisque, rédigés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Pourquoi ? Alors bon, là, ok, j'ai l'impression qu'en quatre phrases, ils font que se répéter. Mais alors la phrase importante est maintenant. Pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes. Alors, enfin, des hommes, c'est tous, hein, c'est des hommes. C'est pas le mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens. Alors, cette phrase, elle est bien ciselée quand même. Hein, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il mise. Alors, pardon, désolé, à l'époque, on employait le. Il mise par écrit, oui, à part toi, Grégory. Il mise par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir et cela seulement. Vous voyez, c'est, hein, on sent que cette phrase, elle est pas très élégante, mais il y a toutes les pièces du puzzle. Alors, c'est ce paragraphe qu'on va commenter. On s'était arrêté. Je suis pas bien, mais. Peut pousser ça là où je. Moi, peut-être. Je suis pas bien là. Voilà, ça va aller mieux. On s'est arrêté sur cette considération essentielle. C'est le fait que Dieu, le lieu premier de révélation de Dieu, c'est l'histoire. L'histoire qui comporte toujours une polarité, donc avec deux éléments, qu'on n'arrive jamais à isoler à l'état pur, ça fait toute la complexité et l'intérêt de la chose. C'est le pôle de l'événement et le pôle du sens. Pour qu'il y ait histoire, il faut qu'il y ait événement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Quand rien ne se passe, il n'y a pas d'histoire, en fait. Mais pour qu'il y ait d'histoire, il ne faut pas simplement qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faut que ça ait un sens, et que ça ait un sens, évidemment, pour l'être humain. Alors, c'est parce que Dieu, si vous voulez, Dieu se révèle dans l'histoire, et donc c'est d'abord, alors, peut-être faut quand même... mettre d'abord l'accent, je dirais, sur la texture événementielle de l'histoire, parce que c'est elle qui mobilise des libertés. Et donc, moi, je donne la priorité à ça sur le pôle du sens, même s'il ne faut jamais, jamais oublier le pôle de la signification, le pôle du sens. Mais et je vous avais dit, si Dieu, qui est amour, se révèle comme ce qu'il est, c'est-à-dire comme amour, il ne peut pas se révéler pour nous dans du nécessaire. En tout cas, il ne peut pas révéler son cœur. Il peut révéler des choses qui sont déjà vraies, mais c'est pas le Dieu n'ouvre pas son cœur dans le nécessaire. Même si en Dieu, tout est nécessaire. Mais le problème, je vous avais parlé de ça, je crois, si je me souviens, de la gratuité. Je vous avais dit, la gratuité, elle est nécessaire en Dieu. Mais pour nous, la seule manière de recueillir de la gratuité, c'est quand elle est mêlée à du contingent. Alors, ça pose plein de... Il y a plein de conséquences à cette remarque assez simple. Mais, alors, donc, d'abord la texture événementielle, mais il faut évidemment y inclure un pôle de la signification, et donc on ne voit pas comment une révélation authentiquement historique de la part de Dieu ne pourrait pas, à un moment ou à un autre, accoler à une action dans des événements, c'est-à-dire dans des personnes, si vous voulez, dans des événements, quelque chose qui serait de l'ordre d'un récit, peut-être d'abord oral, ensuite puis par écrit. Enfin, il faut qu'il y ait quand même aussi transmission, il faut qu'il y ait une interprétation autorisée de l'événement. Vous sentez bien que les choses vont de pair, en fait, vous voyez. Si effectivement Dieu se révèle, il faut qu'il agisse vraiment dans cette texture, dans les libertés qui font l'histoire, mais aussi il faut qu'il y ait, comme le monde de l'histoire, c'est aussi le monde du conflit des interprétations. Donc il faut forcément qu'il y ait une interprétation autorisée. Donc, parce que Dieu se révèle dans l'histoire, il va y avoir quelque chose comme une lettre inspirée, ou en tout cas une lettre sacrée, qui va nous donner accès au sens de l'action divine dans l'histoire. Mais vous voyez, faut pas, enfin, c'est pas en direct dans le livre, hein, c'est d'abord parce qu'il y a l'histoire, ça entraîne le livre. Ou d'abord une tradition orale. Encore une fois, on pourrait imaginer que, surtout dans les cultures orales, où il peut y avoir une grande fixité dans les récits qu'on se transmet, C'est ça, on pourrait très bien concevoir une révélation qui ne prend en charge le pôle de la signification historique que par le truchement de l'oralité. Mais enfin, c'est pas ce que Dieu a fini par choisir pour nous. Alors, je vous avais alerté, non, c'est pas français, j'avais insisté, comment c'est ma phrase autrement, j'avais insisté sur les deux verbes qu'utilise Dei Verbum 11 pour essayer d'établir exactement ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire ce rapport entre le sens et l'événement, puisqu'on a les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture. Alors en latin, il faut quand même aller retourner voir le latin, ce qu'ils ont traduit par contiennent, donc c'est continentur, donc là ça va colle bien, et alors présente, oui, remarque ça colle bien aussi. Ça colle bien aussi, c'est prostare, prostante. Alors, ce double rapport, vous voyez, il y a un rapport d'inclusion, ça c'est plutôt le continentur, et il y a un rapport de signification. D'ailleurs, quand on dit présente, en fait, on pourrait presque traduire, alors je glose un peu, mais expose, ou manifeste, enfin, vous voyez, c'est, en tout cas, c'est comme ça que moi je comprends ces deux verbes, donc il y a la signification et l'inclusion de la réalité divinement révélée. Et ça, c'est exactement une logique qu'on a à l'œuvre partout dans la révélation, qui est une logique sacramentelle. Pardon, c'est-à-dire, il faut quand même que je prenne un verre d'eau. Là, désolé, j'ai un chat dans la gorge. C'est pas mon habitude, mais là, je vais devoir prendre de l'eau parce que j'ai un... Non, c'est pas mon habitude d'avoir un chat dans la gorge. C'est ça que je voulais dire, bien sûr. Tiens, alors, si j'ai encore du temps, je vous raconterai une anecdote que j'ai apprise en Terre Sainte, qui n'a rien à voir avec, mais qui m'a bien fait marrer, à propos de la troune. Le moine à Mouffon, un excellent vin, mais bref, là, je ne veux pas que je m'égare là-dedans. Vous voyez, dans les sacrements, comme on dit au Moyen-Âge, qu'est-ce que les sacrements nous apportent ? Alors, les sacrements nous apportent la grâce. Et alors, ils ont, par rapport à la grâce, il y a deux dimensions. Il y a une dimension de causalité et une dimension de signification. Alors, on pourrait dire que au Moyen-Âge, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait, parce que on a hérité d'un registre de signification dans lequel se limitaient les pères de l'Église, parce qu'ils étaient vaguement platoniciens, et donc c'est le pôle du signe. Et puis, à un moment donné, ça nous a apparu trop faible de dire qu'un sacrement ne faisait que signifier, et donc on a voulu dire, mais il cause aussi la grâce. Un sacrement signifie et cause la grâce. Et comment on s'articule ? Alors, causer, ça c'est plutôt Aristote. Oui, donc les sacrements, la sacramentaire thomasienne, par exemple, réconcilie par-delà la tombe Platon et Aristote, s'ils étaient encore vivants, ils se retourneraient dans leur tombe. Normalement, c'est avec Churchill qu'on l'a fait cette blague, mais là je l'ai plaqué avec. S'il était encore vivant, il se retournerait dans sa tombe. Bref, alors comment est-ce qu'on articule ces deux pôles ? Eh bien, ce que les gens du Moyen-Âge ont fini par trouver comme formule en latin, c'est significando causant. C'est en signifiant que les sacrements causent ce qu'ils signifient. Ben, c'est exactement la même chose pour l'écriture sainte. Vous voyez, quand on dit qu'ils contiennent les réalités divinement révélées, en fait, c'est hyper fort, parce que ça veut dire que quand... C'est comme... Regardez, par exemple, l'Exode. Dieu nous a libérés d'Égypte, quand on était en esclavage, on faisait des briques. Si vous dites que les livres de la Sainte Écriture contiennent cette réalité-là, ça veut dire qu'ils contiennent le salut exodique, exodal, de libération. Donc, par l'écriture sainte, vous pouvez recevoir une libération effective. Mais comment vous y accédez ? Ben justement, par la porte d'entrée du sens. Et là, c'est plutôt le prostante. Vous voyez, alors c'est pas exactement, il n'y a pas les deux verbes, il n'y a pas significando, il n'y a pas significare et causare, mais en fait, ces deux verbes, modulo le fait qu'on est passé du registre du septénaire au registre de l'écriture sainte, nous font entrer dans la même logique, ce qui est d'ailleurs parfaitement traditionnel. Les pères de l'Église, quand ils parlent, ils emploient le mot sacramentum, ils font absolument pas la différence, mysterium, hein, c'est à peu près la même chose, enfin, Mysterium, c'est plutôt l'intérieur, et Sacramentum, le revêtement extérieur. Mais en gros, c'est la même chose. Et ils emploient indifféremment pour les rites de la messe, ou les rites du baptême, ou pour l'écriture sainte. Ils ont, pour eux, c'est exactement, c'est le même, je sais pas comment... Ils saisissent dans un regard unifié, très puissant, ce que le bon Dieu a fait il y a 2000 ans, ce qu'il nous raconte, ce qui nous est raconté de ce qu'il a fait il y a 2000 ans dans l'écriture sainte, et la manière dont j'en bénéficie sous une modalité alors christique en plus, là, si c'est des faits de l'Ancien Testament, c'est dans le Christ, dans les gestes de la liturgie. Tout ça, c'est du sacrement. Dieu a libéré Israël, c'était un sacrement. Quand Moïse a écrit le truc, c'est un sacrement. Et monsieur le curé, quand il baptise, c'est encore un sacrement. Donc ici, on a sous ce couvert de l'inspiration, vous voyez qu'on a une doctrine de l'écriture sainte comme médiation du salut, en réalité. Hein, donc ça, c'est très très fort. Il faudrait développer avec le sens spirituel, mais j'ai pas le temps. D'ailleurs, Deliverboom le fait un petit peu au 12, mais en évitant l'appellation, parce que ça faisait des... Il y avait des histoires, il y avait des polémiques théologiques à l'époque, et le concile ne voulait pas donner l'impression qu'il intervenait. Mais enfin, en gros, c'est de ça dont il est question. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, seul Dieu, alors voilà, ça c'est quand même faux. Seul Dieu peut agir dans l'histoire, au titre de l'événement, par exemple, prendre son peuple et puis le libérer de Pharaon, enfin de l'Égypte, mais seul Dieu peut livrer les mots qui vont nous donner accès, comme lecteur, à la puissance de salut divine qu'il y a eu d'abord dans la texture des événements il y a 2000 ans. Il y a bien des manières d'écrire l'histoire. Hein. Aussi bien dans l'Antiquité que maintenant, regardez par exemple, tiens, dans le livre des Rois, à un moment donné, on raconte comment Jérusalem a été libérée miraculeusement par Dieu quand Sennachérib, en 701, là, faisait... Alors, la Bible nous le raconte d'une certaine manière. Mais, alors, il y a un historien qui raconte... Un historien peut s'emparer d'un événement de l'histoire du salut et raconter à sa sauce. C'est un travail d'historien, c'est aussi déployer ou exposer une signification humaine, et ça peut être d'ailleurs, surtout à l'heure actuelle où on a des critères académiques quand on veut faire de l'histoire scientifique, on peut très bien imaginer que sous un certain rapport, ça soit une meilleure histoire, en tout cas qui réponde davantage aux critères académiques, que quand c'était Moshe Rabbeinu qui écrivait... En deux minutes, j'ai noté avant d'oublier, donc il y a eu la mer, bon allez, on va frapper un peu les esprits, hein. On était 50, ils étaient 3 millions, mais Dieu nous a sauvés. Mais sous le biais de communiquer le salut, c'est évident que c'est pas un universitaire, même avec tous les diplômes et tout ce que vous voulez, vous voyez qu'il n'est pas habilité à mettre les mots qui ont cette capacité sacramentelle de transmettre le salut que Dieu a fait. Il y a besoin un peu l'équivalent d'une institution divine. Vous voyez, comme les sacrements, on dit, ça c'est le Concile de Trente qui dit ça d'ailleurs, hein, c'est même... il dit que tous les sacrements ont été institués par Dieu. Il se garde bien de dire quand, comment, si c'est média ou immédiat, donc ça laisse place à beaucoup de latitude. Hein, mais il faut une institution divine. On sent bien que c'est au-dessus des capacités d'un homme de trouver les mots qui collent, enfin c'est même pas qui collent, c'est qui font partie du salut de Dieu comme historique, puisqu'encore une fois, le sens fait partie de l'histoire, c'est pas une composante annexe. Alors c'est une grande illusion positiviste d'imaginer qu'on peut accéder à une histoire dépourvue de sens, ou version atténuée, une histoire avec un sens objectif. C'est une grande illusion, ça, dont on a plus conscience aujourd'hui qu'il y a un siècle. Donc le sens, il y a certainement plusieurs niveaux de sens, plusieurs manières d'écrire l'histoire, et donc de saisir l'histoire en jouant sur ces deux pôles. Alors c'est toujours très compliqué comment le pôle de l'événement et le pôle du sens, comment ça se combine. Mais il n'y a qu'une manière divine. Et c'est celle, coup de bol, c'est celle qu'on a à la maison en fait, c'est celle qu'on a dans la Bible. Alors cette institution divine, un peu l'équivalent de Jésus qui institue les sacrements, c'est ce que l'Église appelle l'inspiration de la Sainte Écriture. Voilà le pôle institutionnel nécessaire pour que l'historiographie biblique ait cette capacité sacramentelle de communiquer la grâce. Vous voyez tout de suite d'ailleurs que Dieu n'a pas produit la Bible pour permettre à des savants allemands de faire des articles avec beaucoup de notes de bas de page. Vous voyez, on peut faire des articles très savants et très intéressants, d'ailleurs, avec des notes de, comme ça, de notes de bas de page. Et puis ça... Mais ce n'est pas pour ça que Dieu a... La Bible est d'abord là pour le salut des hommes. Hein. C'est évident, ça va sans dire, mais ça va parfois mieux en le disant. Alors, pourquoi est-ce qu'on attribue cette institution divine spécifiquement à l'Esprit-Saint, me direz-vous ? Parce que les sacrements... alors, je crois que le Concile de Trente, il ne dit pas Jésus-Christ, je crois qu'il dit Dieu. Mais voyez, on aurait pu dire, après tout, enfin, on dit Dieu parce qu'on a Dieu pour auteur, mais on va spécifier ou approprier cette institution divine de l'Écriture sainte à l'Esprit-Saint. Alors, première réponse, parce que c'est marqué dessus, en fait, c'est comme le port-salut. Dans la Bible elle-même, il y a un verset qui nous dit ça. Alors, c'est le verset 2 Timothée 3,16. Toute écriture, ou toute l'écriture, est inspirée par Dieu. Alors ça, c'est le texte 2, là, vous voyez. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Alors, le mot traduit par inspirer, c'est théopneustos. Bon, bah, théopneustos, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un mot rare en grec, hein, unique dans le Nouveau Testament. Et c'est vraiment l'idée d'un souffle divin. On peut rapprocher, alors il n'y a pas le vocabulaire de l'inspiration, mais ça nous donne une clé pour comprendre pourquoi est-ce que, quand il s'agit de dire que c'est l'Écriture sainte est instituée par Dieu, pourquoi on approprie ça à l'Esprit-Saint et pas au Père ou au Christ ou... Oui, non, ben là, c'est tout, en fait. C'est ça ma question. Vous comprenez la question, hein, tout le monde comprend la question. Hein. 2 Pierre 1:20, aucune prophétie. Alors, c'est le texte numéro 2, là, machin, là. Aucune prophétie d'écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, c'est la deuxième épître de Pierre, ici, fait allusion à l'inspiration des prophètes d'Israël. Et de fait, dans l'Écriture sainte, quand on parle des prophètes, c'est pas systématique, mais assez régulièrement, on associe l'oracle prophétique et la mission prophétique à une action de l'Esprit Saint, et notamment à ce souffle. Alors vous avez ça en 1 Samuel 19-20, Michée, hein, Michée, alors ne faites pas comme une fois un gars qui est venu à Lambron, il dit lecture du livre de Michée. Dis-moi, dingo. As-tu vu Patibulaire ? Lecture du livre de Mickey, donc avec les oreilles. Donc, non, c'est Miché, hein, c'est Miché, c'est pas Mickey. Ézéchiel 11:5, pareil. Donc, alors, ça veut dire, il faudra comprendre pourquoi est-ce que la référence au prophète est. Mais disons, en fait, quand on dit que l'écriture est inspirée par Dieu, ça veut dire qu'au moins pour nous, les chrétiens, on saisit globalement l'institution divine dans la mouvance du charisme prophétique. Et cela est lourd de conséquences. C'est comme si toute l'Écriture sainte était une prophétie. Alors que dans l'Écriture sainte, il y a des oracles prophétiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a trois choses dans l'Écriture sainte. Donc il y a des oracles. Il y a des lois, voilà. Alors, oracle en hébreu, ça se dit Neoum. Une loi, ça se dit, alors ça c'est très facile. Torah, voilà. Torah. Et puis il y a les trucs qu'on lit moins, mais. Alors les psaumes, oui, mais alors c'est dans les classes des écrits, donc.
Les ketubim.
Voilà, les ketubim, et donc les écrits de sagesse. Alors en français, donc on dit un.
Un livre sapientiel.
Voilà. Mais qu'est-ce par exemple un livre, par exemple, Pierre qui roule ne masse pas mousse.
Un proverbe,
voilà. Et en hébreu, comment on dit un proverbe? Un machal, hein, alors machal. Voilà. Alors, il n'y a pas que des oracles, mais c'est comme si on se disait, mais la manière la plus profonde de situer l'Écriture sainte par rapport à Dieu, c'est de dire, mais quand même, tout est prophétie.
Question.
Oui.
Du coup, tout ce qui est un peu récit biblique, ça va où dans cette trilogie ?
Ben, les récits, ça serait plutôt caractéristique de la Torah. Hein. Dans les livres prophétiques, il peut y avoir des récits. Par exemple, en Isaïe, notamment dans la Torah, vous avez toute l'histoire d'Israël au désert. C'est d'ailleurs très important, Beauchamp insiste beaucoup là-dessus, que les torotes sont toujours données dans un contexte historique, donc narratif. Chez les prophètes, il n'y a pas tellement... les prophètes, c'est les oracles, alors ça se rapprocherait plutôt de certaines formes poétiques. Et puis, alors, la sagesse, c'est la sagesse. L'intérêt d'un proverbe, c'est que pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ça sera vrai demain. C'est le principe d'un proverbe, c'est que ça peut embrasser tous les temps. C'est une espèce de cristallisation d'un patrimoine. L'expérience des gens montre qu'au bout d'un moment, le pierre qui roule... Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas forcément de récit. Alors, pourquoi j'insiste sur la dimension prophétique ? Parce que la dimension prophétique, justement, c'est celle qui est... Je me rends compte que je viens de le dire. C'est celle qui a, de manière la plus évidente, partie liée à l'histoire. Donc, pour les chrétiens, l'écriture sainte, c'est quelque chose... Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est vraiment quelque chose qui accompagne l'histoire. Y compris, d'ailleurs, des proverbes ou des formes littéraires dont on peut dire, mais elles ne sont pas immédiatement mobilisées, normalement, par les historiographes. Mais si vous prenez le Nouveau Testament, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, le psaume 8, tu l'as baissé un peu au-dessous des anges, et puis, c'est quoi déjà, tu l'as baissé un peu au-dessous des anges, de gloire et d'honneur, tu l'as couronné. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va historiciser ce psaume pour en faire une espèce d'histoire de la passion de la résurrection de Jésus. Et Jésus fait aussi ça. Donc, le réflexe d'un chrétien, c'est tout ce qu'on a dans la Bible, on essaye de le coller à l'histoire du salut. Et en fait, pourquoi ? Parce que l'Écriture sainte est une grande prophétie du Christ. Prophétie du Christ encore à venir quand on lit l'Ancien Testament avant Jésus. Et, alors, c'est plus une prophétie du Christ, En tout cas, quand on lit le Nouveau Testament, ce qui apparaît comme prophétique, c'est d'une part le fait qu'on se débrouille pour montrer que Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien, mais aussi parce que y a une nouvelle venue qu'on attend, qui est la venue de gloire, la venue de parousie à la fin des temps, et donc il y a de nouveau un statut prophétique de l'Écriture. D'ailleurs, l'Ancien et le Nouveau Testament, Maranatha, viens Seigneur Jésus, l'Apocalypse termine pour vous dire à quel point nous on n'y attend plus trop, enfin, je ne sais même pas si on y croit encore, mais enfin, à l'époque ils y croyaient, donc la prophétie c'était la condition du chrétien, ou bien il vient dans l'humiliation, ou bien il vient dans la gloire. Donc toute l'Écriture, parce qu'elle est inspirée, est saisie dans cette mouvance prophétique. Alors un mot. Alors là, quand même, après ils disent, bon, notre Sainte Mère l'Église, de par la foi apostolique, tient pour sacré et canonique tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau. Alors, il s'agit du canon. Quand on parle de livres, à un moment donné, il faut essayer de, être un peu précis. Alors, donc c'est pas toute écriture primitive chrétienne n'est pas inspirée justement. Une sélection s'est faite et l'Église engage son autorité sur le canon. Avec une formule qui a une saveur dogmatique, hein, de par la foi apostolique. Alors, aussi bien pour l'Ancien Testament que pour le Nouveau Testament. Il s'agit donc d'une reconnaissance, ça se fait en deux temps, il y a d'abord l'inspiration des auteurs, et puis la reconnaissance qu'un livre est inspiré. Je vous dirai quelques mots dans 5 minutes. La reconnaissance est bien entendu progressive. C'est-à-dire que jamais quelqu'un dit « Tiens, j'ai une patate aujourd'hui, je vais écrire un livre inspiré ». Enfin, ça se fait pas comme ça, en fait. Hein. C'est plutôt à force d'utiliser un livre, on se dit « Mais il y a tellement de richesse dans ce livre que c'est pas possible, il a Dieu pour auteur ». Et c'est plutôt comme ça que, même si d'autres livres sont tenus en grande estime, on dit « C'est pas tout à fait pareil ». C'est un processus d'élimination et de sélection, le canon. Hein. C'est pas un processus d'émergence, c'est un processus de sélection. Canon, vous savez, ça vient du grec canon, qui veut dire...
La règle.
Voilà, mais avant de dire la règle... Le roseau, c'est ça. Le roseau, donc, il sert à mesurer. Alors, très rapidement, enfin, je pense que vous connaissez un petit peu ça, mais... À propos de... D'abord, pour la canonisation de l'Ancien Testament, ça s'est fait, semble-t-il, en 3 phases qui correspondent aux 3 corpus qu'on a dans la Bible hébraïque. Le plus ancien, c'est la Torah, donc ça, c'est probablement en retour d'exil. Et c'est pas impossible que ça soit sous la pression de l'Empire perse, qui donnait une autonomie religieuse et même un peu politique au pays qui était sous son emprise. Mais il voulait avoir un document de référence pour savoir ce qui se passait exactement. Donc ça a pu jouer aussi. Ensuite, la Torah, ça serait, mettons, vers 400 avant Jésus-Christ, qu'on a dit, ben, ça, cette fois, on n'y touche plus. Enfin, on n'y touche plus. En fait, ça continue d'évoluer, mais un petit peu en douce. Il n'y a pas l'imprimerie, donc c'est... Alors, ça peut y avoir des erreurs, mais il peut y avoir aussi des erreurs mûrement calculées. Hein. Mais enfin, en gros, la Torah, les 5 livres de Moïse sont fixés à ce moment-là. Les livres prophétiques, ça daterait plutôt de la période hellénistique. Et on a le témoignage du Siracide, le poème du Siracide est assez intéressant pour ça. Et le dernier corpus, les Ktoubim, alors c'est un ensemble plus flottant. Et c'est pas impossible qu'il a été fixé par le judaïsme rabbinique, donc après la destruction du temple, et en particulier pour se distinguer d'un autre corpus de textes qui prétendait continuer la Bible hébraïque, qui était les textes chrétiens. C'est plutôt une hypothèse défendue aujourd'hui par les chercheurs, c'est que la clôture de la Bible hébraïque vient indirectement du christianisme. Pour le Nouveau Testament, donc c'est la prédication chrétienne primitive qui est le lieu de... Enfin, la traduction est d'abord orale, une prédication chrétienne sur la vie de Jésus, puis des homélies, des... Il y a également des lettres, il y a une prédication orale, un évangile oral, on va dire, mais qui au bout d'un moment, on le met aussi par écrit, ne serait-ce que parce que la mission s'étend, et donc tout le monde n'a pas été témoin, et puis bon, on a besoin de matériel quand on est missionnaire, donc c'est probablement d'abord par le biais de la mission, et puis ensuite, dans un deuxième temps seulement, par le biais de la liturgie, qu'on s'est mis à avoir quelque chose qui finit par ressembler aux évangiles. Et la nécessité d'une clôture nette, décrit, cautionné par l'autorité apostolique, donc la clôture du canon, pour l'Ancien Testament c'est le christianisme, mais pour le Nouveau ça serait l'hérésie marcionite. Parce que Marcion et les gnostiques en général, vous devriez vous méfier de monsieur Marcion, et des gnostiques en général. Marcion, donc vous savez, c'est une forme de polythéisme radical, alors, qui rejette tout ce qui est un peu juif, donc tout l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau... Matthieu, enfin il y a des trucs qui font un peu trop juif, ils jettent. Et évidemment, il y a une réaction. Enfin, la Grande Église s'est prononcée contre le martionnisme. Et on voit par exemple chez Saint Irénée, c'est un très bon témoin de la canonisation, où on dit, ben voilà, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec la vie de Jésus. Parce que il y a les gnostiques aussi, ils adorent sortir des évangiles gnostiques, où il y a Marie-Madeleine, Jésus épouse Marie-Madeleine. La concierge de Marie-Madeleine, c'est toujours avec Marie-Madeleine, les gnostiques, ils sont très bons. Ouais. Et puis, alors tout le monde peut écrire un évangile, mais à un moment donné, il faut se dire, mais non, mais il y a des évangiles qui nous communiquent de manière particulière, enfin véridique, ce qui est le Christ. Et l'idée donc d'Irénée, c'est de dire, en fait, le garant qu'on a, il est extra. Ça, c'est une thèse hyper forte aussi qui devient ecclésiologique. C'est un argument extra. C'est un argument extra, en fait, qui disent. c'est un argument extra intellectuel. J'ai pas le bon mot. Vous voyez, le piège, ça aurait été de dire on ne garde que les bons livres, c'est-à-dire les livres qui donnent des bonnes idées, qui disent les bonnes choses. Mais en fait, vous voyez bien que c'est par l'orthodoxie, en fait. Mais ce n'est pas le critère employé, et c'est un critère qui était peut-être pas aussi manipulable que ça. Puis le problème, c'est que ça nous mettait déjà un pied du côté des gnostiques, qui adoraient dire, mais vous savez, en fait, nous, il y a une vérité pour le commun, mais en fait, on sait, moi j'ai un bouquin, c'est Jésus lui-même qui l'a écrit à Saint Jean, et tout ça, et qui dit des choses magnifiques, tu vas être initié, tu vas aller dans une connaissance supérieure. Donc ils ont des tas de promesses attirantes, notamment pour les gens qui ont une tournure intellectuelle. Et donc, l'argument d'Irénée, il est extra-intellectuel, il dit, c'est la hiérarchie. Enfin, en gros, c'est les apôtres. Vous voyez, donc, c'est de là que vient, on dit, la révélation est close à la mort du dernier apôtre, parce qu'à un moment donné, il ne s'agit pas de dire, mérite d'être dans la Bible le livre le plus intelligent sur Jésus, mais un truc qui est brut, en fait, c'est, mérite d'être dans la Bible le livre dont on dit qu'en fait, c'est Saint-Pierre qui a dicté à Marc, et puis voilà, et du coup c'est Saint-Pierre, c'est peut-être pas génial, bon, Pierre, il était pas fait normal sup, et pas une belle chasuble non plus, c'était un pêcheur, il faisait la pêche à la ligne, alors peut-être par-ci, par-là, il faisait d'autres choses, hein, mais n'empêche que c'est son témoignage, vous voyez, c'est... Oui, déjà, on lutte contre les gnostiques, non seulement au plan intellectuel, mais même dans le processus de détermination du canon. Alors, c'est pour ça que Irénée, il nous donne des listes. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, de dire, bon, ben, tel, il est parti, tel apôtre, il est allé à tel endroit, et puis, il a imposé les mains à tel autre, etc., etc. Puis, c'est, du coup, c'est lui qui nous a porté le bouquin. Le gnosticisme, c'est de la salaire, mais il faut jamais être gnostique. C'est très mal. Alors, donc ça serait par réaction au martionnisme. Alors ce processus, en gros, de sélection pour le Nouveau Testament va s'achever au IVe siècle. En particulier, alors c'est un, sans doute parce que c'est aussi une période de grande croissance puis de mutations socio-politico-économico-culturalo-religieuses, puisque... On n'est plus persécuté, mais on devient persécuteur. Non, c'est pas ça. On n'est plus persécuté, mais on devient les puissants, enfin l'Empire romain. Enfin, l'Empire romain devient chrétien. C'est pour ça que c'est pas un hasard si c'est au même moment, au IVe siècle, qu'on va fixer le dogme, on va fixer certains rites, et on va fixer le canon. Il y a un besoin pour l'Église de fixer un peu les choses au IVe siècle. Donc, processus âgé au IVe siècle, avec quelques incertitudes qui demeurent un petit peu, notamment sur l'Apocalypse. Il y a des gens qui veulent y foutre dehors, parce que l'Apocalypse, c'est bizarre. L'Épître de Barnabé, là, c'est plutôt le contraire. Alors, l'Épître de Barnabé, c'est un petit peu antisémite. Il y a des gens que ça excitait à l'époque. Alors, je ne sais pas si c'était un peu des martionnés, des trucs comme ça. Mais bon, Barnabé, comme Barnabé, c'est Barnabé. On en parle dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on dit pseudo-Barnabé. Hein, mais ça donne plus de liberté. Mais enfin, du coup, des gens disaient c'est un écrit d'apôtre, on ne peut pas le foutre à la poubelle. Et donc, il y a des gens qui. Quand je dis antisémite, ce n'est pas vrai. Hein, c'est anti-juif. C'est un exemple de l'anti-judaïsme. Ce n'est pas du tout racial. Hein, c'est religieux. Alors, l'Épître de Barnabé a failli être dans le canon, puis pouf, elle a raté. Pasteur d'Hermas, pareil. Pasteur d'Hermas, il a failli réussir l'examen, puis pouf, il a raté. Donc, il y a des petites incertitudes. Avoir une liste intégrale et dogmatique et totale du machin, là, de la Bible, en fait, c'est au Concile de Trente. Hein, il n'y a pas avant, finalement. Il y a des conciles locaux, mais comme un... C'est quand même tardif, et alors ça, c'est un peu dans le contexte de la réforme. Hein. À un moment donné, on dit, mais maintenant, précisons les choses, parce que nos amis réformateurs, donc c'est la semaine pour muter des chrétiens, donc je les salue, mais ils se sont distingués de nous autres. Hein. Sur quel point, à propos du canon ?
Les écrits grecs...
Voilà, exactement. Ils ont fait le choix, avec Jérôme, de la Veritas Hebraica, alors que nous, on a suivi saint Augustin et la Veritas Greca, je ne sais pas pourquoi je dis Greca. Alors, ce qui fait qu'il y a 7 livres que nous, on a, alors, ou bien composés direct en grec, ou bien dont on a perdu l'original hébreu, que nos frères protestants n'ont pas. Bien fait pour vous. Non, je rigole. Alors, Dei Verbum 11 redit que l'écriture sainte, là, il y a plusieurs formules. Il y a l'inspiration, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, puis il y a une formule un peu plus générale, les livres ont Dieu pour auteur. Vous aviez ça en Dei Verbum 11. Alors, Deum en latin, abent auctorem. Alors, c'est un accusatif parce que c'est dans la phrase, là. Les Français, ils ont Dieu pour auteur. Bon, je ne sais plus comment c'est en latin. Cette expression, en fait, elle est ancienne, mais moins ancienne que l'inspiration, puisque l'inspiration, on en parle dans le Nouveau Testament. Bon, c'est toujours difficile de dire c'est la plus ancienne attestation, parce que ça se trouve un jour qu'on trouvera un truc plus ancien, mais ça remonterait au 5e siècle, ouais, donc c'est ancien, mais pas tant que ça, dans un texte canonique où on dit « Dieu est le seul et même auteur de l'Ancien et du Nouveau Testament ». Voilà. Dieu, auteur de l'Ancien Testament. Je trouve que c'est intéressant de se dire que cette phrase, qui est peut-être plus compréhensible que de dire « l'Écriture est inspirée par l'Esprit Saint », elle apparaît plus tard. Elle est plus compréhensible, peut-être faut commencer par là, Dieu est auteur de l'Écriture, mais elle a moins d'autorité, elle est plus tardive. Et ensuite, elle s'est transmise dans des professions de foi, cette formule. Elle devient assez traditionnelle. Alors, d'où vient cette expression ? Elle a un fondement dans l'écriture elle-même, puisqu'il est dit, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné dans l'écriture où on dit que Dieu écrit ?
Ah. Pour, la
oui, alors exactement, ah, pas tout clairement, voilà. Quand le, alors c'est effectivement, quand, non, c'est avant le péché du veau d'or, donc quand le Seigneur, donc c'est après la conclusion donc, du code de l'Alliance, enfin, le premier code, de, bon, puis toute la description du... Toute la description du culte, enfin, c'est un peu en Exode, donc c'est 20, du chapitre 20 qui commence par le Décalogue jusqu'à 31. Et on nous dit, quand le Seigneur eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Enfin, le doigt de Dieu, ça a une puissance de perforation supérieure à un doigt humain, et ça a aussi une capacité miraculeuse parce qu'il y a une lettre hébraïque, ce que je vous dis c'est dans le Talmud, hein. Il y a une lettre hébraïque qui s'appelle le Samer, qui est un rond. Et alors ils se disent, mais comment ça se fait que... Parce que... Ah oui, quand on dit elle est écrite des deux côtés, en fait, il dit, il a pas juste gravé, mais ça a traversé, en fait. Et il dit, mais du coup, le rond, comment il fait pour tenir ? Et il dit, parce que c'est le doigt de Dieu, Dieu, c'est miraculeux. C'est bien la preuve.
C'est un peu comme
ça, voilà, c'est son doigt, c'est... ça fait comme une perceuse, en fait. C'est... Donc, Dieu a écrit au moins les tables. Alors, pas de bol, en fait, personne ne les a vues, ces tables. Alors, on nous promet des merveilles, mais puis en fait, quand on gratte un peu... Puisque, après le péché du veau d'or, Moïse a brisé les tables de Dieu. Et alors, Dieu dit qu'il va les réécrire, puisque, alors, quand il va rétablir l'Alliance, ça c'est en Exode 34, le Seigneur dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre semblables aux premières, j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières, celles que tu as brisées. » Donc on se dit, bon, ouf, là il est recontent. Et il va de nouveau faire le coup du Samer, là, vous avez... Mais un peu plus loin, on découvre qu'en fait, c'est Moïse qui a écrit les tables. En Exode 34, 28, Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance. Du coup, en Exode 34, en fait, mais c'est qui l'auteur ? C'est Dieu ou c'est Moïse ? Ou c'est Dieu à travers Moïse ? Donc en fait, on se rend compte, c'est que... La réponse de Dieu, c'est je trouve fabuleux ça, la réponse de Dieu au péché, c'est exactement le contraire de qu'est-ce qu'on aurait fait. Vous voyez, si vous donnez un truc à faire à quelqu'un, puis le mec il fait n'importe quoi, il va laver ma bagnole, vous dites ça le mec, il va laver. Puis le mec il prend le tampon Jex, qui fait des trucs là, ça fait des rayures, fait, c'est n'importe quoi. Vous dites, bon ben attends, donne-moi ça, je vais le faire à ta place. Et bien là, en fait, la réponse de Dieu au péché de l'homme, c'est de convoquer encore davantage l'humanité dans le processus de révélation, puisque Dieu n'écrit plus en direct, mais il écrit en faisant écrire. Si c'est pas une annonce de l'incarnation, ça, vous voyez comment le bon Dieu, il fait des choses, moi je trouve que c'est quand même trop bien, quand même. Donc double origine de l'écriture, en fait. Hein. Déjà dans l'Ancien Testament, on met en place la grande problématique. Est-ce que c'est une parole humaine ou est-ce que c'est une parole divine ? Alors cela étant, pour cette expression, donc Dieu auteur de l'écriture, et donc plus largement même pour l'inspiration des écritures, en fait pendant très longtemps, on a eu du mal à coordonner ces deux éléments, c'est-à-dire l'élément humain, l'élément divin. Et évidemment dans ces cas-là, mais ça a été le cas pour tout, hein, pour la christologie c'est pareil, pour les sacrements c'est pareil, on commence toujours par valoriser le pôle divin, au détriment de l'humain, parce qu'en fait on se dit c'est surtout ça qui compte, puis à un moment donné on se dit mais non, mais ça va pas, et on remet un coup d'humain. Alors donc là, pour l'inspiration des écritures, en fait, assez souvent les pères de l'Église, ils ont pas une doctrine de l'inspiration hyper développée. Ils adoptent un schéma qui est ce qu'on appelle le schéma de la dictée divine, où en gros l'auteur est quasiment sous extase, en fait, hein, et donc Dieu court-circuite ses facultés. Et le type se met à écrire, donc un peu en écriture, voilà, puis d'un coup il se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, mais c'est moi qui ai écrit ça, donc, mais oui, mais tu étais tout bizarre, tu disais des choses magnifiques, et ben, Dieu s'est servi de moi, vous voyez. C'est un peu comme ça qu'on se représentait les choses. Alors je vous ai mis un exemple parmi plein d'autres, Grégoire le Grand. On croit en toute certitude que l'auteur du livre est le Saint-Esprit, il a lui-même écrit ce qu'il a dicté. Il a lui-même écrit celui qui a inspiré cette œuvre et qui, par la voix du scribe, nous a transmis ce que nous devons imiter. c'est pas la parole du scribe, c'est la voix. Et c'est juste l'élément matériel, en fait. C'est pas l'élément du sens, c'est vraiment l'encre sur le parchemin. Donc ça, c'est... Alors, cette doctrine-là des pères, alors, on va être... alors, au Moyen-Âge, il y aura un autre truc, mais ça, je vous en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais pour vous donner l'autre extrême, c'est toujours un peu... La vérité est toujours bipolaire, non qu'une, hein, donc... c'est le principe de la dialectique, c'est toujours double, donc unique. Au début du XVIIe siècle, vous savez qu'il y a des jésuites de tendance humaniste qui, du coup, vont mettre, au contraire, l'accent sur le côté humain. Ils réagissent un peu contre des schémas de ce type-là, même si au Moyen-Âge, c'était déjà un petit peu dépassé. Et pour eux, notamment dans le contexte, c'était, ça leur paraissait plus raisonnable de dire, en fait, le problème, c'est pas tellement de dire que l'Esprit-Saint est l'auteur du livre ou pas, mais de dire, est-ce que ce que dit le livre est vrai ou pas ? Alors, vous avez deux jésuites, par exemple, Léonard Lessus, qui est assez connu, ça c'est fin 16e, enfin c'est deuxième moitié du 16e et puis début du 17e, suivi par Jacques Bonfrère. Alors tous ces gens-là étaient profs à Louvain, je pense. Et leur thèse, c'est qu'en fait, l'inspiration joue moins dans le côté production du texte que dans, la canonisation par l'Église. En fait, l'Esprit-Saint pousse l'Église à reconnaître un livre comme exempt d'erreur et digne de faire partie du canon. Mais ils réagissent, pour eux, c'est pas... Bon, alors, ils pourraient dire, regardez les proverbes. On nous dit les proverbes dans les collections de proverbes. Il y a le proverbe que disait Lemuel, le roi de je sais pas quoi, une petite peuplade païenne à l'époque-là, que lui disait sa maman, en fait. On se dit, bon, pour l'endormir, sa maman, lui, Lemuel, donc déjà, c'est un drôle de prénom, puis... des proverbes, pierre qui roule n'amasse pas mousse, des trucs comme ça. Oui, à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est vraiment inspiré, un truc pareil ? Alors, non, simplement, c'est vrai. C'est vrai que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Au moins, vous aurez retenu ça de cette causerie. Je suis content, vous avez retenu ça de ma causerie de ce soir. C'est que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Oui, donc ils avaient des arguments, ces gens-là. Ils disaient, regardez, il y a des livres, on peut se dire, c'est simplement un livre humain, mais bien tourné, et qui est vrai. Voilà, il y a des livres humains qui sont vrais, il n'y a pas d'erreur. Et ben, l'Esprit-Saint dit à l'Église, ça, tu vas le mettre dans ta Bible, ça sera utile. Cette théorie, on l'appelle la théorie de l'inspiration subséquente. Parce qu'en fait, c'est on voit de la non-inspiration, en fait. Hein. Alors, vous voyez que, évidemment, comme toujours, il va falloir trouver une conciliation ou à dépasser ces deux extrêmes. La dictée divine, où l'homme... n'est qu'un instrument passif, et puis l'inspiration subséquente où Dieu lui-même dit oui, c'est pas mal ce que tu as écrit, allez, hop, on va le mettre dans la Bible. Alors, que nous dit Dei Verbum ? Pour composer ces livres sacrés, donc je relis une phrase que j'ai dite tout à l'heure, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il mise par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Donc là, vous voyez vraiment comment le concile essaye de concilier les deux auteurs, les deux niveaux. Il y a d'abord l'initiative de l'inspiration qui revient à Dieu. Dieu a choisi, donc c'est une élection. Un peu comme une élection prophétique. Hein. On reste dans cette... qui enverrai-je, voilà, où moi, à Mos, j'étais pinceur de sycomore, et puis Dieu m'a dit, va engueuler les gens. Ils vont pas être contents, mais vas-y quand même. D'accord, mais tu gères la suite. Fais-moi confiance. Donc Dieu choisit ce qu'on appelle les hagiographes pour participer à cette étape importante de la révélation, qui est l'écriture donc, de l'action divine dans l'histoire. Mais ces hommes ne sont pas des outils passifs, puisque on dit deux choses, ils ont plein usage de leurs facultés, donc ils ne sont pas dans un état extatique, ils n'agissent pas parce qu'ils ont pris de la mescaline, ou des substances prohibées, et puis des trucs comme ça, et c'est pas non plus une extase. Voilà, ils ont plein usage de leurs facultés, et même on nous dit que ce sont des veri auctores, donc des vrais auteurs. Est-ce que l'action divine en eux est consciente ou pas ? Le concile ne dit pas. Hein. Est-ce qu'ils avaient conscience d'être inspirés ou pas ? Les deux hypothèses sont possibles. Mais, dernière précision, c'est que, vous voyez, d'abord Dieu, ensuite l'homme, et puis on redonne un coup de barre du côté de Dieu. En définitive, le résultat correspond exactement à ce que Dieu voulait obtenir. Alors, cette conciliation des deux éléments humains et divins, disons, comme ça a trouvé son chemin dans le texte du Concile, on peut mettre ça, on peut faire remonter ça à l'école de Tübingen. En fait, saint Thomas avait déjà une solution, mais là, c'est plutôt comme c'est rédigé. L'école de Tübingen, donc une grande école de théologie catholique allemande au XIXe siècle, à laquelle on peut rattacher lointainement, d'ailleurs, Joseph Ratzinger. Alors, il y a, je vais avancer un peu, donc il y a un type qui s'appelait Dre, donc, qui a écrit un article sur la chose, où c'est exactement ça. En gros, il dit, mais il faut pas... Les lois de l'inspiration doivent correspondre aux lois normales d'action de Dieu dans l'homme. Or, on sait bien que la doctrine catholique, c'est justement que c'est Dieu qui fait tout, mais c'est aussi l'homme qui fait tout. C'est-à-dire, comme on dit, la grâce ne supprime pas. Gratia non tollit, sed perficit naturam. Donc, il y a quelque chose d'une assomption de la nature, et avec toutes ses facultés, c'est surélevé, mais c'est respecté. Alors Dre dit, ça ne peut pas être autrement. Et c'est aussi vrai en christologie, vous voyez, c'est toujours un peu le même problème. Jésus est parfaitement Dieu, mais il est aussi parfaitement homme. Chaque fois qu'il y a eu des christologies qui essayaient de supprimer un élément de l'humanité de Jésus pour expliquer comment Jésus pouvait être un, on a fini par dire, ça ne marche pas. Donc c'est toujours, c'est jamais ou, c'est en même temps en fait. Hein. En même temps. Alors, avant Vatican II, il y a eu Vatican I. Vatican I n'a pas écrit grand-chose sur l'inspiration, mais il a quand même un truc, c'est qu'il a répudié, dénoncé la théorie de l'inspiration subséquente. Le problème, c'est qu'ensuite, on est entré dans la querelle moderniste, et que du coup, il y avait beaucoup de... Donc, il majorait énormément toutes les problématiques de l'histoire, et que du coup... Il y a eu un peu un réflexe de verrouillage de la part, alors pas forcément du magistère, mais en tout cas de la commission biblique pontificale qui avait été instituée par Léon XIII, si je me souviens bien, peut-être une bêtise, est-ce que c'était Pie X, c'était peut-être Pie X, ça devait être Pie X, je ne sais plus, pour justement s'occuper de toutes ces questions, parce qu'on commençait à être envahi dans le champ catholique par les articles de ces auteurs, de ces savants allemands, comme Arnac, le bien nommé, qui ne croyait ni à Dieu, enfin c'est ici, il croyait en Dieu, Arnac, enfin, qui avait une vision très modernisante, très immanentiste des choses. Et donc, par réaction à un immanentisme diffus dans l'exégèse, on a continué d'insister, sans doute excessivement, sur le pôle divin à l'œuvre dans l'inspiration. Jusqu'à une encyclique importante de Pie XII qui s'appelle Divino Afflente Spiritu, donc ça va être un ablatif absolu, je pense. Donc c'est l'Esprit Saint, l'Esprit divin l'Esprit divin soufflant en fait. Hein, donc c'est vraiment l'inspiration. Une encyclique consacrée aux études bibliques, mais qui aborde dans un numéro l'inspiration. Alors ça, je vais quand même vous lire ce texte, parce que c'est un bon jalon, c'est le texte numéro 6. Il paraît juste de faire une mention particulière de ce que les théologiens catholiques, en suivant la doctrine de Saint-Père, rappelez-vous, l'encyclique qui permettra d'ordonner des femmes s'appellera « Sicut Ecclesia Semper Dixit hein. ». En suivant la doctrine des Saint-Pères, surtout celle du docteur Angélique et commun, on scrutait et expliquait la nature et les effets de l'inspiration biblique d'une façon plus appropriée et plus parfaite qu'on avait coutume de le faire dans les siècles passés. Donc, là, il met les pères de l'Église dans la balance. C'est plus juste de dire le docteur Angélique, ça c'est vrai. Partant dans leur recherche du principe que l'agiographe, en composant le livre saint, est organon ou instrument de l'Esprit Saint, mais instrument vivant et doué de raison, il remarque à juste titre que conduit par la motion divine, il use cependant de ses facultés et de ses forces, de telle manière que l'on peut facilement saisir dans le livre composé par lui son caractère particulier, et pour ainsi dire, c'est très évidemment personnel. Entre guillemets, là, c'est une citation de Spiritus Paraclitus, donc une encyclique de Benoît XV, mais cette phrase-là n'a absolument rien à voir avec... Enfin, comme toujours fait le magistère, hein, c'est une citation, mais complètement hors contexte, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, ça collait bien, et ça donne l'impression... En fait, quand on dit quelque chose de nouveau... Il faut dire, mais on l'a toujours dit. Alors, Donc vous voyez que là, on a des formules qui commencent... Enfin, on a presque déjà les formules de Vatican II. Hein. On nous dit qu'il est conduit par l'esprit, avec un mot technique qui est le mot organon ou instrument, mais qu'il use de ses facultés et de ses forces. Et alors ce qui est intéressant, c'est justement cette phrase entre guillemets, son caractère particulier, c'est très évidemment personnel, ben, ça serait le côté vrais auteurs, c'est-à-dire que non seulement s'exprime à travers l'auteur un contexte historique, mais aussi ben, tout ce que, si on était un peu romantique, on appellerait le génie, en fait, le génie de l'auteur, c'est-à-dire il avait une manière de... Alors, sa manière de vivre, notre auteur inspiré, il a une expérience de la grâce, hein, pensez aux évangélistes. Matthieu a une certaine expérience de Jésus, Luc en a une autre, Saint Jean en a une autre, ils écrivent, ils parlent du même personnage, mais c'est des regards croisés, en fait, hein, vous voyez, donc, et l'expérience qu'ils ont de Dieu, ben, ça, c'est parce que Dieu fait peut-être pas la même chose exactement dans leur vie, mais quand bien même il ferait la même chose, ça n'a pas le même retentissement, heureusement d'ailleurs. Hein, alors ça joue un rôle, il ne faut pas en avoir peur. Alors, un mot sur Instrumentum, c'est, alors, on nous parle du docteur angélique, et c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, quand saint Thomas aborde, un peu de manière détournée, la question de l'inspiration dans le Quod Libet 7, article 6, si je me souviens bien, il emploie ce mot-là. Alors, le mot d'Instrumentum, pour saint Thomas, c'est un mot très important, parce que il lui sert de manière quasi systématique, justement, à articuler ces deux pôles, divin et humain, en particulier dans le Christ. Il va dire que l'humanité du Christ est instrument de sa divinité. Et chez saint Thomas, l'instrument, ça peut être un instrument passif. Alors là, c'est ce qu'on appelle un instrument séparé. Par exemple, je prends un marteau pour planter un tournevis. Et là, je me dis, ça colle pas. Et donc, je prends un tournevis, en fait, pour planter un clou. Ça ne marche pas non plus. Mais en tout cas, le marteau comme le tournevis sont passifs. Alors, il va utiliser une autre notion, c'est ce qu'il appelle l'instrument conjoint. Il dit, c'est quand j'utilise mon bras, en fait, c'est moi qui veux ouvrir la porte. Mon bras est comme un instrument, mais il dit, c'est un instrument conjoint. Et en fait, c'est pour nous sensibiliser au fait qu'un instrument, justement, peut être parfaitement... Comment dire ça? Vous voyez, comme mon bras, par exemple. Il est soumis aux règles de la pesanteur, il est soumis aux règles de la physique, il est soumis aux règles de la biochimie, il doit y avoir des réactions, enfin les cellules, j'ai jamais cru trop à ces histoires de cellules. Mais il doit y avoir des cellules et des trucs, les mitochondries, enfin il y a plein de lois scientifiques qui me donnent des règles de fonctionnement de mon bras. Aucune de ces règles me dit que je décide d'ouvrir la porte et puis d'aller dehors. Mais ma liberté est capable d'utiliser à son service, en les respectant, toutes les règles, alors de la pesanteur, de la physique, de la chimie, de la biochimie, de la je sais pas quoi, des trucs. Vous voyez, c'est exactement ça que Thomas vise. Vous voyez, c'est quand même assez pas mal. C'est quand même assez bien, en fait. Voilà. Vous comprenez ça quand il parle d'instrument conjoint. Et c'est bien exactement comme ça que Dieu fait à la fois pour la grâce et pour l'inspiration. C'est-à-dire que, de même que ça n'est pas un miracle quand j'ouvre une porte... Si je faisais la vaisselle, là, ça serait plus de l'ordre du miracle. Ça serait plus de l'ordre du miracle. Mais ça ne viole pas les règles de la physique que j'ouvre une porte. Mais rien dans les règles de la physique peut produire moi qui ouvre la porte. C'est ma liberté qui ouvre la porte, vous voyez. Je suis capable de surélever les règles qui gouvernent un instrument pour faire de l'instrument ce que je veux. Et ben, c'est à peu près la même chose que Dieu fait pour l'inspiration. Alors, deux autres métaphores. Il y a une métaphore que je trouve que c'est celle du piano. Hein, il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais ce que ça veut dire surtout, c'est que un piano, ça, justement, ça continue. Il y a du bois, il y a des machins, il y a des trucs en métal, ça obéit aux règles de l'harmonie. Et plus votre piano. Vous voyez quelqu'un qui dit : moi, je suis un compositeur tellement génial que pour correspondre à mon génie créatif, il faut que mon piano soit désaccordé. On va dire, ah bon, t'es vraiment sûr que t'es génial, en fait. Vous voyez, c'est pas où il faudrait que... Non, précisément, quand le piano est un bon piano, il y a le mauvais piano, il y a le bon piano. Quand le bon piano, bien accordé, eh ben, le bon pianiste, il va respecter les lois du piano, mais il va en faire quelque chose de formidable. Ou encore, une métaphore que j'aime encore mieux, c'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre ne tient aucun instrument, mais tout dépend de lui. C'est lui qui fait tout. Enfin, il fait tout. Non, il fait pas tout, justement. Les instrumentistes font leur machin, Mais le type qui bat la sauce, c'est lui qui fait tout, en fait. Il synthétise, il oriente, il machin. Alors, tout ça, c'est des analogies, donc il y a une forme d'imperfection, mais ça nous fait comprendre cette... Vous preniez un instrument conjoint, que vous preniez le piano, c'est comme ça que ça marche. Alors, je vais m'arrêter. J'avoue que c'est fini. Je vais m'arrêter là. Si, alors, ce qu'il faudrait quand même dire... Alors, pourquoi ce truc est important? Parce qu'il y a une règle énoncée par Saint Jérôme, et repris par Dei Verbum 12, c'est la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit qui l'a fait rédiger. Et donc, si je suis capable de dire, mais l'inspiration, c'est intégrer, respecter et surélever les capacités des auteurs, qu'est-ce que ça veut dire pour l'inspiration? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'interprétation, pardon? Il faut lire l'écriture à la lumière du même esprit qu'il a fait rédiger. Autrement dit, dis-moi ce que c'est que l'inspiration, je te dirai comment lire le bouquin. C'est ça qui est important, en fait, parce qu'après tout, l'inspiration, bon, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est comment ça se lit, ce bouquin. Donc, quand on a sa bonne théorie de l'inspiration, comment on comprend qu'il faut lire la Bible?
Il faut respecter les règles de la lettre,
voilà.
L'auteur respecter les règles humaines et en même temps s'ouvrir à l'Esprit Saint.
Voilà, bravo, exactement. Donc ça nous met exactement en place deux choses décisives dans la traduction.
Enfin, l'exégèse un peu scientifique avec la prière.
Alors, c'est scientifique, ça serait un peu plus récent, mais disons, prenons une expression un petit peu plus ample.
Littéral.
Le sens littéral et le sens spirituel. Enfin, vous voyez qu'on a. Ce qui est très curieux, c'est qu'on a développé bien plus précocement une théorie convaincante de l'interprétation biblique avant d'avoir une théorie convaincante de l'inspiration. Mais enfin, finalement, on a récupéré les morceaux. Et en 2 minutes qui me restent, ouais, là, c'était bien ce que j'ai dit. Ça se défendait, c'était bien. Il y aurait quand même deux questions à soulever et que vous pourriez soulever, mais je les soulève avant vous. C'est que quand même, on se rend compte que qu'est-ce la notion d'auteur, en fait. Voilà. En fait, c'est deux questions, mais c'en est une. On parle des auteurs, la dictée, le concile parle de l'auteur, à un moment donné, il parle de l'intentio auctoris. Or, l'herméneutique contemporaine, c'est justement un truc qu'elle a tendance à dégommer, ou en tout cas, ou bien à élargir le concept, ou à le délester, en fait. Alors, c'est d'autant plus vrai pour les écrits bibliques, c'est qu'il y a quand même de fortes chances qu'une bonne partie des livres bibliques, sinon tous, c'est jamais un gars qui imprime sur son truc et qui publie, mais c'est toujours une intervention de plusieurs personnes, ne serait-ce que à cause du phénomène de recopie, en fait. Vous voyez, je vous ai dit, les scribes, normalement, ils essayent de recopier fidèlement, mais des fois, quand c'est bizarre, ils disent « mais c'est pas possible, c'est le mec avant moi qui a travaillé comme un cochon, je vais corriger ». Des fois, il a raison, mais des fois, c'est lui qui n'a pas compris, et en corrigeant, il a affaibli le texte. Et puis des fois, on se dit, bah, j'ai trouvé la bonne formule qui va mieux que ce qu'il dit, alors on le met en marginal, ensuite en interlinéaire, et puis après ça passe dans le texte. Hein, mais il y a aussi des textes qui sont portés par des communautés. Donc vous voyez que, en fait, il faudrait peut-être élargir cette question de l'inspiration, pas simplement à la vision un petit peu romantique du gars qui est à la bougie, là, puis un peu les tableaux de Saint Jérôme, là, tout ça, où je sais pas comment tu traduis, le type est là, puis. À la bougie, puis voilà, je vais écrire Jésus, Principio erat verbum, voilà, c'est. Mais voir comment c'est un charisme, l'inspiration est un charisme historique et social. Voilà, l'inspiration est un charisme historique et social. Et puis, alors, l'autre truc, c'est que, à propos justement de l'herméneutique philosophique, où on conteste la figure romantique de l'auteur comme dépositaire du sens du texte, ça c'est un truc que là. Quel est le sens du texte, en fait, hein? Est-ce que. C'est vraiment l'intention de l'auteur qui trouvera un moyen de nous transmettre ce à quoi il pensait. Cette vision-là, elle a plus trop cours aujourd'hui en herméneutique. Donc il faudrait aussi peut-être améliorer ce que dit Dei Verbum. Alors moi, ma théorie, c'est que la rhétorique classique, elle a le bon triptyque en disant il y a un côté, mais elle dit il faut jouer sur le pathos, le logos et l'éthos. Le logos, c'est vraiment le sens du texte. C'est un peu ce que disent les structuralistes. Il y a un principe d'immanence. Tout est dans le texte, rien d'autre que le texte. Le pathos, ça c'est plutôt ce qui est du côté de l'auteur. Donc quand même, je serais réticent à être totalement gadamérien et à dire là, ce qu'il y a dans la tête de l'auteur n'a aucune, doit pas jouer pour faire émerger le sens du texte. Ça me gêne un petit peu, je trouve que ça manque quand même de réalisme. Pensez à une lettre de Saint Paul. Je me dis, mais quand même, à un moment donné, c'est inhumain de dire, c'est très, 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 très beau intellectuellement, mais à un moment donné, je trouve que c'est inhumain et irréaliste de dire que dans un texte, il n'y a jamais de communication d'un contenu de pensée. Je ne dis pas que c'est la norme du sens, mais je pense qu'il faut en tenir compte. Et puis, il y a l'éthos. Alors, l'éthos, c'est plutôt du côté du lecteur, et donc, c'est les effets que ça fait sur le lecteur. Oui, c'est l'inverse, absolument. Merci, ça marche encore mieux comme ça. Toujours est-il que j'aurais... Vous voyez, alors, cette herméneutique-là, c'est à la fois du côté de l'inspiration et du côté de l'interprétation, mais en réalité, je me dis que ça serait peut-être une bonne doctrine de l'inspiration qui nous donnerait la bonne doctrine de l'interprétation qui serait capable d'intégrer ces trois éléments. Intégrer ces trois éléments, ça veut dire, pour savoir... Même le sens littéral, attention, je ne parle que du sens littéral. Comment jouer sur le pathos, le logos et l'éthos? À ma connaissance, ça existe. On n'a pas encore d'herméneutique qui fait ça, en fait, on a des bouts. L'herméneutique classique, c'est uniquement du côté de l'éthos, puisqu'elle dit, en gros, c'est dans l'intention, il faut reconstruire l'intention de l'auteur. Le structuralisme, tout est dans le logos, et puis l'herméneutique qui est un peu à la mode aujourd'hui, enfin c'est peut-être même plus à la mode d'ailleurs, ça peut être encore changé, mais c'est plutôt de dire l'auteur n'est que le premier de ses lecteurs, en fait. Donc, tout est du côté du pathos. Alors moi je dis non, il faudrait essayer de faire une soupe avec le pathos, le logos et l'éthos. Et j'ai fini, et y a, voilà, c'est terminé. Il y a une
autre anecdote sur la Terre Sainte.
Non, c'est trop tard, je vous la dirai, puis ça s'enregistre, ça enregistre, non mais je la dirai pas, j'ai plus nommé ça là de sortie du contexte. Non mais je la dirai la prochaine fois. Je la dirai là.
Si on coupe.
Vas-y, il y a une question importante de Jean-Daniel.
Oui, enfin, c'est pas très important, mais j'ai juste pas très bien compris ce que vous disiez au tout début, quand vous disiez que donc la parole de Dieu produit le salut, enfin qu'elle contient et qu'elle produit le salut. Ça veut dire quoi notamment dans le cas de l'Exode, de la libération des
hébreux,
c'est Dieu qui les a libérés, mais c'est pas le récit qu'on en fait qui produit la libération.
Ben si, pour toi. C'est-à-dire que Dieu quand il agit dans l'histoire, il frappe un gros coup sur la table. À un moment donné, il dit mais c'est pas possible. Ils font n'importe quoi et ils frappent un gros coup. Et en fait, ça fait des... Alors, il y a un effet immédiat qui est le peuple hébreu. Il y a un effet immédiat qui est le peuple hébreu qui sort d'Égypte. Et vous voyez bien que c'est contradictoire qu'une action divine soit limitée dans le temps, en fait. Et donc, elle va se prolonger, et elle se prolonge, alors d'abord liturgiquement, c'est pour ça que quand les Juifs célèbrent la Pâque, ils relisent les textes et disent, c'est aujourd'hui, puisqu'ils citent le Deutéronome, c'est aujourd'hui que tu quittes l'Égypte. Donc, par la vertu du texte et de la liturgie, en fait, il faudrait commencer comme ça, il y a d'abord l'événement producteur d'un texte, et puis réintroduit dans un deuxième événement, si on veut, mais d'une nature spéciale, qui est la liturgie, mais qui s'adosse. La liturgie, elle récupère le pôle événementiel en passant par l'écriture. Mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire que c'est massivement par l'écriture. C'est-à-dire que quand vous allez à la messe, il y a deux parties à la messe. Il y a la partie de la liturgie de la parole et puis la liturgie eucharistique. Et la liturgie eucharistique, pourquoi est-ce qu'on a les deux ensemble? Parce que ben, quand vous, l'hostie a le goût de la parole que vous avez entendue, ou plutôt la grâce que Jésus fait jamais de la grâce. La grâce, c'est jamais insipide, incolore, c'est jamais l'emballage neutre, en fait. Hein, vous savez, lait concentré. T'as pas de marque, t'as pas de truc, t'as pas de date, t'as pas de lait, pâte. Ça n'existe pas. T'as toujours un petit dessin, t'as des vaches qui sont ton truc, lactelle, machin, pour les trucs. Ça, c'est la grâce. Vous voyez, c'est toujours. C'est pas un paquet neutre. C'est pas un paquet neutre. Alors, le petit dessin, le truc qui te dit que ça le fait, c'est la parole. Donc l'eucharistie que tu reçois, la grâce qu'elle te donne, elle est colorée par la parole que tu as entendue. Et surtout que le prêtre, il a comment... Enfin, le prêtre, il a expliqué. Le prêtre. Pourquoi il n'y a que le prêtre qui fait l'homélie? C'est pas la question d'avoir un doctorat en exégèse. C'est que de même que Jésus édifie son corps par l'Eucharistie, il édifie son corps par son enseignement. Et donc le prêtre, il est vraiment quand même, s'il dit des trucs pas toujours malins ou parfois très longs, c'est normalement en théorie, hein, en théorie. Hein, après il y a la pratique, hein, faut le croire. C'est la foi, ça relève de la foi. Donc il faut le croire. C'est Jésus qui enseigne son peuple et ça c'est salutaire. Donc tu vois, c'est. Alors on peut aller plus loin, dire aussi, mais même quand tu médites dans la prière, l'Écriture sainte, donc hors contexte sacramentel. Si c'est dans la prière, moi je pense que la parole, elle agit dans la prière, c'est même le sens spirituel ça. Et donc tu peux dire en vérité, alors ça, là non plus, c'est pas à chaque fois que tu fais un temps de prière avec la Bible, tu ressors pas avec, des étincelles autour des trucs, mais il y a des moments où vraiment tu dis, mais cette parole, ça vraiment j'espère que vous l'avez vécu, enfin, sinon il faut lui demander la grâce. Hein. Mais à un moment tu dis, mais en fait, Isaïe me parle là, enfin Isaïe parle de moi, il me parle pour moi, et en fait c'est hyper fort. Donc tu sens que... Et les pères disent la vérité n'est pas du côté initial, elle est du côté final. Il y a plus de salut quand Dieu te parle dans ton temps de prière que quand il a sorti Israël d'Égypte.
Et ça, est-ce que ça recoupe la notion oui. de pathos dont vous parliez, ou est-ce que le pathos c'est plus large que ça, ou c'est un peu à côté de ça, enfin,
Alors, je dirais que là pour le coup, moi je parlais du sens littéral, donc ah oui, ça serait là ça serait un pathos spirituel, c'est ce qu'on appelle le sens spirituel. D'accord. Okay. Là c'est vraiment le sens spirituel. Le sens littéral, c'est très difficile de définir le sens littéral, mais ça serait au début du processus. Mais comme on dit que c'est toujours une communauté de relecture, c'est ça qui est compliqué. C'est en fait, on dit, mais quand Qumran relit des trucs, quand les mecs relisent le cantique, ils rajoutent des machins, en fait, ils ont lu le cantique, ce qu'ils rajoutent, ça va devenir une lettre pour les mecs d'après, mais en fait, pour eux, c'est déjà un sens spirituel. Tu vois, ils reçoivent une lettre, ça leur fait penser, ils disent, mais Dieu fait un truc, oh, c'est super, je l'écris. Et puis la génération d'après dit, bah, du coup, pour nous, c'est une lettre. Donc, en fait, le sens spirituel des uns devient le sens littéral des autres. Mais tant que la colonisation n'est pas achevée. Allez, on va dire les vêpres. Alors, on va...